Avec moi, dans mon salon, tout de blanc, vêtu, Muammer Yılmaz. Muammer, ça fait quelques années qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés. C'est le voyage qui nous a fait nous rencontrer il y a quelques années de ça. La photographie, tu avais une exposition en photo sur les peuples de l'Éthiopie, la vallée de l'Omo. Tu exposais ça à Colmar, on a à peu près le même âge, on est tous les deux Alsaciens. Tu es aujourd'hui dans mon salon pour ce podcast via l'émission Regarde ailleurs. Donc Regarde ailleurs, c'est cette notion de regard, donc élargir son regard, sa vision sur soi, sa vision sur le monde, sa vision, tout simplement sortir de ce filtre de croyance pour voir qu'il existe dans le voyage plein de manières différentes d'être et de penser. Muammer, on va commencer peut-être au début, à la genèse du personnage. Donc voyageur, ça, on va vite comprendre pourquoi, parce que à ton actif, des bouquins, des films, un tour du monde sans argent, un autre tour du monde à venir bientôt avec ton amoureuse, des voyages en Afrique, en Asie, en Amérique, ça n'arrête pas depuis des années. Dès que je te vois, tu es là, mais tu n'es déjà plus là. Et donc on va parler voyage dans ce podcast, mais d'abord toi, quelle est ton histoire avec le voyage? Pourquoi est-ce que Muammer s'est mis à voyager jeune? Parce que c'est pas nouveau cette histoire-là.
Très heureux d'être là, Alexandre, d'échanger avec toi et de participer à ce podcast, d'échanger sur le voyage et sur l'aventure. J'ai eu la chance de voyager déjà 100 pays dans le monde et de faire plusieurs aventures un peu extraordinaires qui bien sûr, m'ont appris beaucoup. Et c'est ça que j'aime dans le voyage, c'est apprendre des autres, partager avec les autres. Et c'est ça qui est beau. Alors, comment ça a commencé, effectivement? Moi, j'ai une double culture. Je suis d'origine turque, né en France, à Colmar. Et chaque année, on allait faire un road trip pour voir la famille. Et donc, ça faisait 6000 km de route en voiture, à traverser plusieurs frontières et plein de contrées pour arriver jusqu'au village. Et je pense que voilà, ça, c'est resté un peu, parce que chaque année, on faisait ce voyage, quoi. Donc moi, j'adore être dans le train, dans le bus et de voir le paysage défiler. Je pense que c'est un souvenir d'enfance qui est ancré, sans le savoir.
Mais souvent, quand on est enfant, on est là à poser la même question à ses parents. C'est quand est-ce qu'on arrive? C'est souvent très ennuyeux de voyager à cet âge-là.
J'ai pas de mauvais souvenirs. Un autre moment important de ma vie qui m'a peut-être poussé dans les voyages, c'est à 17 ans, le lycée organise un voyage aux États-Unis et je vais voir mon père, je lui dis un voyage et tout, il me dit ouais super, je dis je peux y aller, il me dit bien sûr, je dis ouais mais ça coûte un peu, il me dit bah tu travailles et t'y vas, je dis mais les copains c'est les parents qui payent, il dit chez nous c'est pas comme ça. Et du coup j'ai dit ok et j'ai bossé et j'ai fait tout plein de petits boulots, j'ai payé tout mon voyage et même plus. Et je suis allé voir mon père, je dis hey, « avec l'argent en plus, je peux acheter une caméra ?» Il a dit « Non, la caméra, c'est pour moi, t'as mérité, je te paye la caméra et tu gardes l'argent comme argent de poche pour les États-Unis. » Imagine, à 18 ans là, donc un an est passé, j'arrive aux États-Unis, je suis le seul à m'être payé moi-même mon voyage en gagnant 1 euro par-ci, 2 euros par-là, même si c'était des francs à l'époque. Et là, je me dis « Si à 18 ans, j'arrive à me payer les États-Unis, je peux me payer le monde. » J'ai compris qu'en faisant des petits boulots, en économisant un petit peu, eh ben, je pouvais encore voyager. Ça, c'était un moment très fort parce que non seulement j'avais la caméra qui m'a ouvert à cette envie de filmer, de partager, de garder une mémoire, et aussi voilà, cette soif du voyage et cette ouverture d'esprit. C'était la meilleure éducation que de dire non à son fils, débrouille-toi. Mais je suis sûr que si je ne l'avais pas fait, il m'aurait payé le voyage. Mais c'était pour me pousser, quoi. Et chaque année, je comprends encore plus pourquoi il m'a dit ça avec le temps. Voilà.
Donc, est-ce que tu savais à cette époque-là, donc jeune Muammer, à l'âge de 20 ans, que tu allais devenir un voyageur professionnel? Parce que c'est ce que tu es devenu aujourd'hui. Ou est-ce que tu avais quand même d'autres idées? Tu avais des études peut-être dans lesquelles tu étais impliqué?
Alors, moi, j'ai fait un peu d'ethnologie et de cinéma audiovisuel. J'ai fait beaucoup de tournages réalisateurs. Donc, j'ai fait beaucoup de films dans ma vie, de particuliers, de films d'entreprise, des reportages. Et un jour, effectivement, c'était... voilà, j'avais fini de payer mon appartement et je me suis dit, voilà, j'ai un toit pour la vie, je peux trouver à manger et j'ai décidé de me calmer. Parce qu'avant, j'ai bossé comme un Turc pendant 20 ans. Donc de mes 16 ans à mes 36 ans, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Je faisais 1, 2, 3 boulots en même temps. Les week-ends, les mariages, le montage le dimanche, la semaine TV Campus, le soir encore des autres tournages et des autres montages. Enfin, j'ai vraiment bossé comme un fou. Et je me suis dit, voilà, il est venu le temps de calmer les choses. Et là, je suis parti pour le tour du monde en 80 jours sans un sou avec Milan. Et on est parti juste avec nos deux sacs à dos, voilà, comme ça, sans sponsor, sans production, sans grandes organisations. Et ce voyage a vraiment changé nos vies.
Le tour du monde en 80 jours sans argent. Bon, quand tu te lances dans ce projet-là, tu as déjà pas mal baroudé avant. L'Éthiopie, je crois, hein, c'était déjà avant ça.
Oui, effectivement, j'ai eu la chance de faire deux grosses aventures avec Philippe Rey. Donc, c'était mon prof d'ethnologie. Quand je l'écoutais à la fac, il me faisait rêver, quoi. Et j'ai eu la chance de partir avec lui. Et on a fait deux films documentaires, un sur les peuples de l'Omo en Éthiopie, qui est quand même des conditions difficiles de voyage et de tournage. Et une caravane de sel qu'on a suivie en Éthiopie, dans le désert du Sahara. Donc deux aventures quand même très rudes, des conditions de tournage difficiles, mais qui m'ont beaucoup appris. Un exemple concernant le Sahara, enfin, je me suis complètement... enfin, tu as le temps de penser, tu vois, tu marches toute la journée et... Ouais, je me suis dit, tout ce qui est matériel, là, tu n'en as pas besoin, quoi. Tu es au milieu de nulle part et tu as juste besoin de l'eau à manger et l'énergie de ton corps. Les peuples de l'Omo m'ont aussi beaucoup appris, par exemple, à me concentrer plus sur le monde qui t'entoure. Ces peuples-là aussi sont coupés du monde, ils ont rien de moderne. Et ils ne connaissent pas le TGV, qu'on est allé sur la Lune ou les informations. Ils connaissent juste le monde autour d'eux à 50 km. Pourquoi? Parce que leur pâturage va pas plus loin, ils s'intéressent, ils connaissent pas le reste. Et du coup, ça m'a inspiré. Et depuis, je ne regarde pas les informations, je ne m'intéresse pas à tout ce qui se passe dans le monde là, maintenant, tout de suite, à tout savoir. Je m'intéresse au monde autour de moi. Et j'aime bien résumer ça en disant, je préfère appeler maman 30 minutes et prendre des informations de ma maman que de regarder le journal télé. Et aussi, ces voyages m'ont appris à me détacher du matériel. Avant, je pensais que j'avais besoin de toutes ces choses qui nous entourent et que sans ça, on ne pouvait pas vivre. Et quand j'ai vu ces gens qui vivaient juste de la terre et des bêtes, donc voilà, ça m'a changé.
Tu pars avec Milan faire un tour du monde sans argent en 80 jours. Donc Milan, je crois savoir que vous êtes rencontré via le couchsurfing, mais vous partez faire un tour du monde sans argent en 80 jours. Comment est née cette idée? Pourquoi?
Alors voilà, moi j'avais envie de faire le tour du monde parce qu'à force de voyage, tu rencontres des gens qui ont fait le tour du monde et du coup ça te fait rêver. Et de toute façon, tout le monde aimerait faire un tour du monde finalement. Et voilà, après des années de tentatives, d'organisation, d'aller avec un copain, d'aller avec une copine, et puis je me suis dit, ok, je vais y aller tout seul et je vais y aller 80 jours. Parce que partir plus longtemps, moi j'arrivais pas. Voilà, j'avais des obligations, des choses, et voilà, bien sûr, on rêve de partir un an, 2 ans, mais voilà, 3 mois c'était possible. Et Jules Verne m'avait beaucoup inspiré, donc le tour du monde en 80 jours, ça m'allait bien. Et avec Milan, je lui ai proposé, lui il a dit, ah ben moi aussi je vais faire le tour du monde. Ben, je dis, ben viens, on fait 80 jours ensemble, et puis après toi tu continues 2 ans, parce que lui il voulait faire plus longtemps. Et on s'est lancé. Et on cherchait, on se demandait, est-ce qu'on le fait juste pour nous? Est-ce qu'on va partager? Est-ce qu'on veut passer des messages? Est-ce qu'on va filmer? Est-ce qu'on va, voilà, comment on fait ce voyage, quoi, en préparant? Et ce qui ressortait de nos voyages précédents, parce qu'on était tous les deux quand même des grands voyageurs, c'était la bonté, la gentillesse des gens rencontrés dans nos voyages. Et on s'est dit, allez, on va partager ça et on va montrer ça. Et le meilleur moyen de montrer que la générosité existe, c'était de le faire sans argent. Parce que si on arrive à faire le tour du monde sans un sou en poche, ça veut dire que les gens sont généreux, quels que soient les pays, les religions, et les catégories sociales. Et c'est ce qu'on a prouvé.
On va pas détailler ce voyage, ce tour du monde en 80 jours. Il y a un bouquin qui le fait très bien et un film aussi qui revient un peu sur l'itinéraire. Mais ce qui va m'intéresser, c'est ce que ça apporte, que ce qu'on apprend en voyageant sans argent.
Alors, c'est vrai que j'ai précisé tout à l'heure qu'on est parti avec deux sacs à dos et deux copains. Voilà, c'était un voyage comme beaucoup en font. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'être très médiatisés. Dans les réseaux sociaux, on nous a suivis. Ce qui nous a ouvert les portes d'un livre, d'une série télé, d'un film de cinéma qu'on a partagé dans beaucoup de pays dans le monde, d'une pièce de théâtre, un one-man show et de conférences. Donc on a déjà partagé dans pratiquement 50 pays dans le monde, ce qui est juste dingue.
Ça, c'est à votre retour. Hein.
Oui, ça, c'est le retour. Mais tous les films confondus, on va dire. Après, on ne s'est pas arrêté, on va en parler. Et donc, c'est vrai que ça a changé nos vies, déjà, l'après. Quand on est arrivé, on s'est dit avec Milan, tu crois que tu as changé? On s'est dit, oh, non, en 3 mois, on ne change pas trop. Mais en fait, là, 8 ans plus tard, je peux vous dire qu'on a complètement changé. Bah, déjà, on a appris à accepter les noms et à demander. Avant, on n'osait pas demander. T'as un copain à Paris, tu vas à Paris, t'oses pas lui demander si tu peux dormir chez lui, t'as peur de le gêner, tu sais pas comment demander. Maintenant, sans problème. On demande tout. Il faut demander. Mais on accepte les noms. C'est-à-dire que personne n'est obligé de dire oui. Donc on demande et on se donne la chance d'avoir un oui. On a appris à être patient. Parce que des fois, t'attends au bord de la route pendant des heures et voilà, t'es patient.
Donc première leçon, savoir demander, apprendre à demander. Quelles sont les autres leçons que tu as pu apprendre sur ce tour du monde sans argent?
Ah oui, donc qu'est-ce qui a changé encore en nous? C'est la patience, j'en ai parlé, et aussi ça a ouvert nos cœurs. T'imagines? Pendant 80 jours, on t'offre un sourire, à boire, à manger. On ouvre les portes de la maison, on ouvre les portes du cœur, et ça pendant 80 jours. Donc tu vis, tu reçois la générosité pendant 80 jours de milliers de gens à travers le monde. Donc ton cœur, il est ouvert et tu te dis, si toute ma vie j'aide autour de moi, je pourrais même pas rembourser, entre guillemets, mais je pourrais même pas donner autant que ce que ce voyage nous a donné. Donc ça ouvre le cœur à aider l'autre et ça, c'est fantastique.
Alors, c'est vrai qu'on se fait nourrir, loger, mais aussi tout ce qui est déplacement. Donc, je crois savoir qu'il y a même des gens qui sont allés jusqu'à vous offrir un billet de bus, un billet de train ou un billet d'avion.
Oui, on pensait pas demander un billet d'avion à des particuliers. Nous, on pensait qu'une compagnie aérienne se dirait « Ouais, ces mecs-là, ils sont super, allez, on leur offre un billet d'avion et tout. » Mais impossible de voir le directeur d'une compagnie aérienne et encore plus et aussi un manager. Donc, ça n'a pas marché cette technique. Mais par hasard, à Singapour, on a rencontré une famille iranienne dans la rue. On a cherché un endroit où dormir. Ils nous ont dit « Ouais, on vous invite à l'hôtel ». On dit « Non, mais on préfère dormir chez vous. Si on voyage sans argent, c'est aussi pour être plus proche des gens et partager des moments ensemble ». On dit « Ouais, mais ce ne sera pas possible. Mais vous inquiétez pas, on vous invite à l'hôtel ». On arrive à l'hôtel, super hôtel, et on voit 700 euros. Je dis « Mais non, il ne faut pas dépenser 700 euros pour une chambre, c'est pas possible. Si vous êtes prêt à dépenser cet argent, c'est mieux de nous payer un billet d'avion parce qu'on ne sait pas comment aller aux États-Unis. » Il dit « Reposez-vous, on verra demain pour le billet d'avion ». Ils nous ont offert la nuit dans l'hôtel, 25e étage, vue sur Singapour, un truc de fou, et le billet d'avion, donc c'est dingue.
Une question que j'aime bien poser aux voyageurs, j'ai l'impression que quand on se met en mouvement, il y a quelquefois une forme de magie qui opère. On va poser une intention, on va avoir une idée, et souvent on va faire la rencontre qui va nous permettre d'aboutir à nos fins, ou la rencontre qui va nous apporter la clé, qui va nous permettre d'ouvrir la porte pour aller plus loin dans l'aventure. Qu'est-ce que tu penses de ce côté magique de la vie, ou les synchronicités qui peut nous arriver quand on voyage?
C'est vrai que ce qu'on a appris aussi dans ce voyage, c'est à parler avec tout le monde, avec simplicité, et pas forcément avec intérêt. C'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, mais même moi, hein, même c'est la société, voilà, il y avait toujours ce petit côté, parler avec quelqu'un, être copain avec quelqu'un, avec un petit intérêt derrière, tu vois, dans ton esprit, ah, peut-être qu'il m'aidera pour ci, et on a complètement cassé ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre cœur s'est tellement ouvert que, bam, on voit l'être humain, avec aucun intérêt. C'est-à-dire que, voilà, on parle à quelqu'un, on échange, on sait qu'on peut offrir et qu'on peut recevoir. Et c'est l'échange qui est important. Et puis après, on verra ce que la vie nous offre. Mais bien sûr que la synchronicité et chaque rencontre, c'est pas un hasard. C'est fait pour nous construire. Et chaque rencontre va nous changer. On va apprendre de chaque personne dans le monde, que ce soit la femme de ménage ou le patron, le président ou l'ouvrier, tout le monde peut nous apprendre quelque chose. Ça, c'est aussi une leçon du tour du monde. Et me venait à l'esprit, là, pendant que tu me posais la question, une autre chose qui a changé en nous, c'est la consommation. Imagine, pendant 30 jours, tu ne mets pas les mains dans les poches. Tu n'as pas d'argent, tu n'achètes rien. Donc, quand tu n'as pas acheté pendant 80 jours, donc 3 mois, bah, tu perds cette habitude. Tu coupes cette habitude d'achat. Et avant d'acheter quelque chose, quand on est rentré, bah, on a réfléchi à trois fois. On se dit, mais attends, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Et ça, c'est aussi très intéressant. Du coup, depuis 8 ans maintenant, j'achète très, très peu de choses. Et en plus, on a aussi coupé cette envie. C'est-à-dire, non seulement on s'est coupé de la consommation, mais aussi, on s'est aussi coupé de l'envie de posséder des choses matérielles. Là, je ne rêve pas d'avoir une grosse voiture, je ne rêve pas d'avoir des marques, aucun intérêt à tout ça. J'achète très, très peu de choses. Manger bien, c'est ça qui est important. De temps en temps, pour m'habiller, mais très rarement, j'ai pratiquement trois tenues chez moi, à la maison. Donc, presque moins que quelqu'un qui part en voyage. Mais c'est chez moi, dans ma garde-robe.
On en parlera un peu plus tard dans cette émission. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend des concepts comme la simplicité volontaire, la sobriété heureuse, le minimalisme, hein, cette envie de vivre avec moins et de se rendre compte, bon, on le sait déjà, que le bonheur n'est pas matériel, mais vivre l'expérience a quelque chose d'assez incroyable en soi. Ce tour du monde sans argent en 80 jours, c'était donc un défi que vous étiez lancé avec Milan. Et donc le défi a été complètement accompli.
Oui, on a réussi. On est arrivé le 79e jour. On a dormi chez Antoine de Maximy, le roi de J'irai dormir chez vous, très très connu en France. Et donc c'était fou quoi, de se retrouver chez lui. Le hasard des réseaux sociaux qui nous ont connectés avec lui. Et c'était un super final, quoi. On était très contents. Et bien sûr, merci à ces milliers de gens croisés qui nous ont aidés et qui nous ont permis de réussir cet exploit. Et ensemble, on a prouvé qu'il y avait des gens bien partout et que faut partir à l'aventure, faut y aller et faut pas avoir peur.
Donc voilà, je leur dis dans le micro, il existe un livre, il existe un film, Le Tour du Monde sans argent en 80 jours, où vous découvrirez cette aventure un peu folle. Mais l'aventure avec ton frère de voyage, Milan, ne s'arrête pas là. Donc vous rentrez en France, mais d'autres idées émergent, et l'une d'entre elles, ça a été de traverser l'Afrique pour réaliser le rêve des gens.
Oui, alors quand on est rentré, on nous a dit « Ouais, mais les gens ils sont gentils là-bas, mais en France c'est pas possible ». On a dit « Si ». On a fait le Tour de France en deux chevaux, sans argent. Même à la station-service, on a demandé aux gens de nous faire le plein. Et ça a marché. Donc la générosité existe en France. On a réussi à faire le tour de France sans argent, en deux chevaux. Et on n'a jamais dormi dehors. Sauf une fois dans la voiture, parce que la voiture était tombée un petit peu en panne. Donc la générosité existe en France, mais c'est une manière différente de demander.
Comment tu abordes quelqu'un quand tu te retrouves à une station essence et que tu as besoin de mettre de l'essence dans ta voiture ?
Ben on explique, on dit on fait le tour de France, on n'a pas d'argent, est-ce que vous pouvez mettre 5 euros, 10 euros ? Mais bien sûr, le tour du monde nous a beaucoup appris, et donc la première question, c'est pas ça. La première chose, c'est qu'on donne. On donne un tour de magie, on danse, on met de la musique dans la station. Donc au début, on offre un peu d'énergie, un peu de magie, et après on demande. Donc là, ça va tout seul. Des fois, on nous faisait le plein. Et des gens, ils disent « Hop, allez, je te fais le plein !» Voilà, après ce Tour de France, on a fait aussi Haïti. On avait récolté des fonds pendant le Tour du Monde, 7 300 $, et on a aidé les enfants à Haïti dans une école là-bas. C'était pas facile, hein. C'était aussi une opération difficile, parce que c'est quand même un des pays les plus pauvres du monde, donc les conditions de vie, même à la capitale, c'était compliqué de vivre ça, de voir ça, c'était pas évident. Et effectivement, 2 ans plus tard, on est parti en Afrique, I Have a Dream Africa, c'est le nom du projet. Et on a pris nos sacs à dos avec un drone, eu 2 caméras professionnelles. Milan était très chaud pour faire un grand film qui touche. Et avec Milan encore, et on a traversé 7 pays, 8000 km, avec la grande question, c'est quoi ton rêve ? C'est quoi ton rêve ? What is your dream ? Et on a posé cette question et on a réalisé 18 des rêves qu'on nous a partagés. On a changé le toit d'une maison. Parce que Mama Jen, une grand-mère, quand il pleut, ben l'eau elle rentrait à l'intérieur. Elle ne pouvait pas dormir. On a offert des chaises roulantes à des enfants handicapés. On a planté des arbres. On a offert des années d'études. On a offert 3 billets d'avion à des étudiants qui étaient sélectionnés parmi 2000 jeunes des bidonvilles d'Afrique du Sud pour aller faire un service civique en France. Ils nous ont fait d'ailleurs une lettre de remerciement. Et quand je l'ai lue, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et je me suis rendu compte que, voilà, c'est tellement beau d'offrir. Déjà, de voir des yeux qui brillent, de recevoir des merci, ça fait plaisir. Mais voilà, et cette lettre, ça m'a fait pleurer. Je me suis dit, voilà, c'est ça aussi le sens de la vie, c'est d'aider l'autre. En fait, souvent on dit ça aussi, c'est que quand tu aides l'autre, ben l'autre il est content, mais toi tu es peut-être même plus content que lui. Ça offre à tout le monde en fait.
Et on dit quelquefois qu'on gagne plus à offrir qu'à recevoir. On est plus riche en offrant qu'en gardant quelque chose. Alors il y a différentes manières d'offrir. On peut offrir du temps, on peut offrir un sourire, on peut offrir une écoute attentive, on peut offrir un billet comme tu l'as fait. Donc là il y a une question plus matérielle ou une question de coût. Comment tu faisais financièrement pour offrir des biens matériels aux gens? D'où vient l'argent?
J'ai oublié de préciser que c'était avec l'argent du livre, avec les droits d'auteur du livre qu'on a sorti chez Michel Lafon. Eh bien, on a décidé de les offrir au monde. Comme le monde nous a aidés à faire ce tour du monde, eh ben, nous, on voulait offrir en retour. C'est pour ça qu'on a fait ce voyage. Et c'est tellement beau de marcher avec l'idée d'aider l'autre, quoi. On a marché en essayant de trouver des gens à qui on pouvait partager voilà, leurs rêves et les réaliser. Et comme tu l'as précisé, voilà, des fois, on n'a pas besoin d'argent. On peut offrir du temps, on peut offrir nos compétences, on peut offrir nos muscles pour aider à construire. Donc oui, on n'a pas forcément besoin d'argent. Mais on a aussi utilisé le réseau, parce qu'on a pas mal de gens qui nous suivent. Et du coup, on a fait aussi des mini crowdfunding. Et ça, c'était génial parce que on rencontre Mama Jen, elle partage son rêve. On fait une vidéo, on explique que voilà, quand il pleut, ça tombe, qu'on a besoin de, je sais pas, je sais plus trop, mais 600 $. Qui veut participer? Mais vous avez 24 heures, faut le faire tout de suite. Bam! Ah, les gens ont participé parce qu'ils voient ce qu'on va faire. On a reçu l'argent, on a acheté le matériel, on a changé le toit et on a envoyé, genre 2 jours plus tard, la vidéo en disant voilà ce qu'on a fait avec votre argent. Et Mama Jen qui finit par un thank you. Et ça, c'était génial! C'est super, parce que les gens qui aident, ils voient concrètement quoi. Les gens étaient très fiers et très heureux d'avoir participé à ces rêves.
Mohamed, cette notion, cette question qui est essentielle, quel est ton rêve? What is your dream? Quel est le rêve des gens? Est-ce que c'est le même rêve qu'on peut avoir en Asie, en Afrique ou en Europe?
Ah non, les rêves sont différents en Europe. Quand on a interviewé les gens à Paris, c'était avoir un appart de 200 mètres carrés, avoir 10 000 abonnés sur YouTube. C'était très différent que les rêves en Afrique. C'est sûr qu'on a choisi un continent où on pouvait beaucoup plus facilement aider à réaliser le rêve des gens. Et
Et ce qu'on se
peut-être
rend
même.
compte, c'est que les rêves sont peut-être plus collectifs dans ces pays-là, où on rêve pour sa famille, pour sa communauté, alors que chez nous, dans les pays développés, enfin dits développés, c'est souvent des rêves beaucoup plus personnels.
Effectivement, c'est plutôt l'esprit Ubuntu. Et j'aime bien cette histoire. C'est un chercheur qui offre un plateau de fruits à des enfants. Et il dit, vous allez toucher l'arbre là-bas, et le premier qui revient, il va gagner tous les fruits. Et les enfants, ils y vont tranquilles, en se donnant la main, en chantant. Ils touchent tous ensemble l'arbre. Ils reviennent et ils se mettent autour du plat. Et le chercheur dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous auriez pu avoir tout le plateau de fruits, et là, vous allez être obligé de le partager. Il dit, ben oui, c'est ça, Ubuntu. Le bonheur dépend de son prochain, des gens autour de soi. C'est le bonheur, c'est quand il est partagé.
Allez, Compostelle, on va y aller. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup sur le chemin entre pèlerins. Le poids de ton sac représente le poids de tes peurs. Et c'est vrai que le voyage, peut-être, apporte ça aussi, apprend le dépouillement, apprend à délester tout l'inutile. Et vous avez montré qu'on peut voyager sans argent, avec un tour du monde sans argent, mais aussi sans bagage.
Voilà, sans bagages et sans déchets. C'était l'objectif de Compostelle, 800 km de marche à travers les montagnes en Espagne, Camino del Norte, Camino Primitivo pour ceux qui connaissent, et plus de 1 million de pas. Tout ça, les mains dans les poches, pas de sac. Alors que un pèlerin normal a 8, 12 ou 15 ou 20 kilos pour certains sur le dos. Alors comment avoir une telle différence? Et comment pouvoir voyager sans bagage? Alors le message, c'est pas de dire voyager sans sac, mais le voyage, c'est de se dire allégez-vous. Prenez le strict minimum. Allégez votre sac, mais allégez aussi votre vie. On peut faire la même chose dans sa vie. Donc c'est vrai que c'est l'esprit minimaliste. Alors nous, on a déjà tenté des expériences auparavant, et on a déjà fait plusieurs voyages sans sac, donc on est parti 2 jours, ou 1 jour, ou 5 jours, et 10 jours, ou 3 mois. Et on a appris petit à petit à se délester des choses qu'on se pensait indispensables, et on a vu que ben, c'était possible de voyager et de rester propre, sans bagages.
Qu'est-ce qui est indispensable alors finalement ?
Eh bien, voilà, à l'époque, on n'avait pas tout ce matériel incroyable qui est disponible, et on nous fait croire un peu, peut-être pour le marketing, un peu pour la vente, peut-être un peu pour le confort. On s'est habitué à plus de confort aussi. Mais voilà, je pense qu'à l'époque, tout le monde partait sans sac ou juste un petit sac, quoi, parce qu'il n'existait pas toutes ces technologies et tout ça.
Mohamed, dans ta vie, il y a le mot défi qui revient souvent. J'ai l'impression que tu aimes bien te mettre des défis.
Je pense que si on veut changer dans la vie, il faut se lancer des défis. On ne peut pas devenir un sportif sans se lancer de défis. On ne peut pas commencer à courir 30 minutes comme ça du jour au lendemain. Ça ne marche pas. Le cerveau, il n'est pas prêt. Le corps, il n'est pas prêt. Il faut se lancer un défi. Il faut se dire, ok, pendant une semaine, je vais faire du sport tous les jours 30 minutes et je vais le dire à un copain et si j'arrive, il va m'offrir ceci. Enfin, il faut se lancer un défi. Sinon, il faut se forcer un peu, en fait. Le défi, ça permet de se forcer à faire quelque chose qui finalement est bon pour nous. Mais si on ne le fait pas, si on n'a plus l'habitude, ben, on n'arrive pas à le faire. Donc, je pense que les défis sont importants pour pouvoir évoluer et changer, pour passer à autre chose.
Se lancer des défis et aussi ne pas avoir peur de l'échec.
Effectivement, il faut essayer des choses et puis si ça ne marche pas, ben on essaiera encore une fois. Il faut juste être sûr que l'endroit où on va, le défi qu'on se lance ou ce qu'on a envie de faire, c'est le bon, c'est la chose juste. Et si on n'arrive pas cette fois-ci, on arrivera la prochaine fois, c'est pas grave.
Et j'aime bien l'allégorie de l'enfant. Pour pouvoir marcher, il va tomber 2 ou 3 000 fois, mais il recommence encore et encore jusqu'à ce que ça fonctionne et jusqu'à ce qu'on arrive à poser un pas devant l'autre. Et la vie, c'est ça, finalement. C'est se fixer des défis, ne pas avoir peur d'échouer. Et si on est sûr que c'est quelque chose de bon pour nous, réessayer, et forcément, ça va marcher.
Oui, effectivement, j'ai aussi partagé cette histoire dans mon dernier livre, Compostelle sans bagages. Et je partage ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut se rappeler à chaque fois qu'on se lance dans une aventure, dans un projet, que chacun d'entre nous, on est tombé en moyenne 2000 fois pour apprendre à marcher. On s'est relevé, on a eu le courage, on s'est fait mal, on s'est relevé et on a réussi. Et heureusement, sinon on serait à 4 pattes. Et personne n'est à 4 pattes, tout le monde marche. Donc on a toute cette force, cette énergie, ce courage en nous. Puisqu'on l'a déjà fait. Donc, faut pas l'oublier. Il faut repenser à cette histoire. Et surtout, ça, pour les jeunes. Parce qu'un jeune, il dit « Ah, mais j'ai appelé, il n'a pas répondu. » Mais c'est pas comme ça qu'on trouve du boulot. C'est pas comme ça qu'on arrive au bout d'un projet. Il faut insister. Et la persévérance, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut persévérer. Il faut tenter d'arriver à son but en allant des fois tout droit, des fois en passant à gauche, à droite, en dessous, en haut. Il faut essayer tout, différentes formules. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à ses fins, d'arriver à faire ce qu'on veut, sans déranger personne et sans obliger personne, mais en essayant différentes solutions.
Mohamed, Optimistic Travelers, donc c'est un peu ce qui te caractérise, ce côté optimiste, cette énergie que tu as, cette envie de donner, cette envie d'expérimenter, de vivre des aventures. Donc un bouquin, un autre à venir, des films, tu disais, ou une plateforme Vimeo sur laquelle on peut voir vos différents contenus produits. Une question que j'aime bien poser en général pour terminer les interviews, c'est sur le voyage, le mot voyage. Qu'est-ce que ça t'a apporté de voyager ? Qu'est-ce que c'est que pour toi voyager et qu'est-ce que ça apporte ?
Voyager, c'est l'école de la vie, comme dirait Ludovic Hubler, c'est son nouveau diplôme. Et ben, on apprend beaucoup des voyages. Ben, déjà, on apprend que ben, des gens vivent différemment que nous. Moi, j'ai appris que la vérité n'existait plus, puisqu'il y en a dans certains pays qui croient qu'une religion, c'est la vraie, c'est la juste, et il y en a dans un autre pays qui croient exactement la même chose, mais avec une autre religion. Donc c'est qui a raison ? Voilà, il y a des cultures, des habitudes, des manières de faire, de penser, qui sont complètement différentes d'un pays à l'autre. Donc t'apprends à les respecter, à les comprendre et à les respecter. Et ça t'ouvre l'esprit, forcément. Tu restes pas bloqué dans tes croyances et tu t'ouvres à d'autres croyances et je pense que c'est très 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 enrichissant. Le voyage apporte aussi la différence, la diversité, et ça on aime, l'homme a besoin. Voilà, si on part en vacances, c'est aussi pour le changement, c'est pour faire le vide, c'est pour voir autre chose, et on aime tout ça. Arriver quelque part et voir, waouh, c'est des nouvelles contrées, ça peut être même un village du coin, ça peut être une montagne pas loin. On n'est pas obligé d'aller au bout du monde, mais on aime le changement. C'est beau. Et moi, j'adore encore plus le changement, même si je voyageais pas. À l'époque, je bougeais beaucoup mes meubles dans la maison. J'aimais beaucoup mettre mon canapé de l'autre côté et oh, ça me faisait du bien. Donc on a besoin de ce changement, je pense, en tant qu'être humain. Et voilà, le voyage offre ça. Et voilà, un jour, en voyageant, je me suis dit, mais c'est tellement génial cet état d'esprit, ce moment quand tu es en voyage et que tu oublies tout et tu prends juste plaisir et tu es dans le moment présent, tu vois? Et tu te dis, waouh, c'est génial. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi on pourrait pas vivre ça tous les jours? Pourquoi toute ma vie, ça pourrait pas être ça? Et j'en ai rêvé et je l'ai construit et aujourd'hui, je vis ça.
Mohamed, merci à toi, merci beaucoup.
Merci Alexandre.